Radio Libertaire 89.4, vous écoutez Un peu d'air frais, une émission de reportage sur l'écologie au quotidien.
Bah, moi je m'appelle Anne Clerval, on va passer par là, il ne faut pas qu'il se trompe. maîtresse de conférence en géographie à l'Université de Marne-la-Vallée, je viens de soutenir ma thèse en 2008 sur la gentrification à Paris. Et c'est pour ça que là on m'a contactée par le FRAP, parce que par ailleurs je suis aussi dans des réseaux militants pour faire une visite là-dessus. Voilà. Et donc là c'est pas vraiment un quartier sur lequel j'ai travaillé spécifiquement dans ma thèse, mais j'ai travaillé sur les opérations publiques qui ont lieu dans le coin, et donc voilà, je peux en parler un petit peu. Devant la rotonde de la Villette, et c'est un bâtiment de Ledoux néoclassique, assez moche comme vous pouvez le remarquer, et en fait c'était un élément de l'ancienne barrière d'octroi, le mur des fermiers généraux. Donc en fait ici, c'est ça que je voulais faire aussi, c'était, j'ai imprimé des plans de la visite, malheureusement j'en ai fait 30 au frais du CNRS, donc on peut pas non plus trop abuser. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les faire passer et vous allez essayer de vous auto-censurez en prenant un pour quatre à peu près, hein, je crois, à vue de nez. Et donc il y a un plan et il y a aussi un extrait de photo aérienne et un extrait de carte topographique qui permet justement d'avoir une vision un peu générale sur ce que je vais dire là maintenant. Donc en fait là, au niveau, en fait, c'est simple, la ligne 2 du métro. Vous voyez, tout le monde connaît la ligne 2 du métro. Et bien ça suit exactement l'ancienne barrière des fermiers généraux qui était une des enceintes de Paris, qui a été construite à la fin du 18e siècle. Et alors c'était une enceinte assez particulière puisque c'était la seule enceinte de Paris qui n'était pas une enceinte défensive. Elle faisait, 3 mètres de haut, donc pour résister aux envahisseurs c'est pas top. Et 1 mètre de large, c'était une barrière financière, enfin une barrière fiscale en fait, sachez que jusqu'en 1943, pour rentrer dans Paris, les marchandises payaient une taxe. Donc c'est quand même hyper tardif. Comme il y avait beaucoup de fraude, évidemment. On a construit ce mur, ici c'était une des barrières, la barrière de la Villette, où on payait l'octroi pour les marchandises. Ça vous explique pourquoi les quartiers qui sont à l'extérieur ont développé énormément des bals populaires, des bars, etc. Parce que justement, on ne payait pas le vin, donc le vin était moins cher et donc c'est là qu'on venait le consommer. On sortait des barrières pour aller s'encanailler derrière la barrière. C'était en fait des bureaux des fermiers généraux. La ferme générale, c'était en fait la perception des impôts. Hein, donc c'était le fisc d'hier. Donc ça, c'était des bureaux pour percevoir l'octroi. Et ce qui est intéressant, c'est que donc ça marque à peu près la limite de l'urbanisation fin 18e, début 19e. Ça veut dire que les quartiers dans lesquels on va se promener là, ils ont été urbanisés essentiellement au 19e siècle. Il n'y avait pratiquement rien, c'était des champs avant. Et cette barrière a été détruite dans les années... que je ne dise pas des bêtises. Oui, il a été détruit en 1860, puisqu'en 1860, Haussmann a annexé donc, ce qu'il y a entre là et le périphérique, qui étaient donc des communes en fait, indépendantes, comme la Villette, comme la Chapelle, etc., qui ont été annexées à Paris. Et entre-temps, dans les années 1840, on avait créé une nouvelle enceinte, qui était l'enceinte de Thiers, sur le tracé du périphérique actuel, qui était là une enceinte défensive, qui nous a beaucoup servi, comme chacun sait. Donc voilà. Et donc du coup, on a détruit ce mur-là entre-temps, puisque en 1860, du coup, l'octroi était perçu au niveau de l'enceinte de Thiers. L'enceinte de Thiers était une enceinte défensive et le mur d'octroi. Donc voilà. La rotonde de la Villette, elle a failli être détruite quand on a construit le métro aérien en 1902, la ligne 2. Et du coup, le métro, vous voyez, fait plein de détours et ça a coûté beaucoup plus cher de le faire. Finalement, elle n'a pas été détruite et pendant longtemps, elle a hébergé la commission du Vieux Paris, qui était justement quelque chose qui essayait de préserver le patrimoine, nanana. Et elle a été déplacée, cette commission, en 2004. Elle s'est déplacée dans le 9e. Et depuis, cette rotonde, elle est en cours de réhabilitation pour faire des cafés, un lieu culturel, etc. Et donc, c'est le début de tout ce que je vais vous raconter tout le temps sur tout le parcours. La revalorisation à d'autres fins de ce quartier, qui était donc un quartier principalement ouvrier. Devant, c'est le bassin de la Villette. Derrière, vous avez le canal Saint-Martin. Ça, je pense que tout le monde connaît. Mais juste, ces canaux, ils ont été percés dans la première moitié du 19e siècle. Donc exactement, c'était 1825 pour le canal Saint-Martin, 1808 pour le bassin de la Villette. Et ces canaux, en fait, ils forment toute une suite de canaux qui permet de faire un raccourci sur la Seine, d'aller plus vite au méandre suivant. D'autant plus que pendant très longtemps, la Seine n'était pas navigable au niveau du Châtelet, parce qu'il y avait un pont effondré qui empêchait les bateaux de passer. Donc c'est quelque chose qui a restimulé le commerce et la navigation pour le commerce de marchandises. Et en fait, ces canaux étaient absolument super importants pour l'industrialisation de l'Est parisien. Et c'est un des facteurs du fait que l'Est parisien est principalement industriel et ouvrier pendant donc, tout le 19e siècle. Et donc ça montre que c'est un rappel pour vous dire que tout autour de ces canaux, canal Saint-Martin, bassin de la Villette, canal de l'Ourcq, c'était des usines, des entrepôts, de l'habitat extrêmement populaire fondé sur la spéculation privée, donc c'était que de l'habitat privé de très mauvaise qualité, et donc des gens, enfin des quartiers très très populaires, hein, et aussi immigrés, mélangés, etc. Mais bon, l'immigration la plus forte, on en reparlera après, elle arrive plus tard quand même. Hein, c'est, l'immigration du 19e, c'est les Auvergnats. Hein. Mais c'est important de le dire parce qu'il faut bien penser qu'au 19e siècle, les classe bourgeoise, vous voyez, les Auvergnats et tout ce que vous voulez, exactement, et ils avaient exactement le même discours qu'on peut entendre aujourd'hui contre les immigrés. C'est-à-dire que la conscience nationale, l'idée que les Auvergnats sont des Français comme les Parisiens, etc., ça arrive très tardivement. Et on voyait comme des sauvages, etc., avec tous les côtés. Il y avait un racisme exactement de la même manière. Donc c'est important à dire. C'est pour ça que c'était déjà des quartiers d'immigration, en fait, même si c'était beaucoup des Français. Oui, et donc ce que je voulais vous dire en vous montrant cette carte topographique, c'est donc que le tissu urbain de ce grand quartier de Paris, donc nous on va en faire qu'un petit bout, il est très marqué par ça. Vous avez pas mal d'emprises ferroviaires très importantes, dont il a été question de les couvrir à un moment ou un autre. Vous avez pas mal d'entrepôts, d'anciennes usines qui ont donné des friches, etc., qui ont été récupérées. Donc on est dans un quartier en pleine transformation. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. On va voir comment d'anciens bâtiments industriels, un ancien quartier ouvrier est transformé. Et moi, je vais axer la visite principalement sur le rôle des politiques publiques là-dedans, enfin les opérations publiques là-dedans, ce qui n'est pas toujours le cas. C'est-à-dire, par exemple, si vous prenez le canal Saint-Martin, qui s'est profondément transformé à la fin des années 90, ça s'est fait plus ou moins tout seul, entre guillemets. C'est-à-dire c'est essentiellement à l'origine des cafés, de promoteurs privés, etc., que ça s'est transformé. Alors, donc là, on a parlé de l'histoire. Ah non, les voitures, c'est pas possible, en revanche. On a parlé de l'histoire, on va revenir plus près de nous maintenant. En fait, c'est donc le bassin de la Villette. Pour l'instant, là où je vous ai laissé, c'était très ouvrier, très noir, très pollué, très tout ça, et très populaire. Il n'y avait pas d'arbres. Et alors, on est dans les années 80. Dans les années 80, vous savez peut-être qu'on a ouvert le parc de la Villette, la cité des sciences de l'industrie, etc. Qu'est-ce qu'il y avait avant? Les abattoirs de la Villette, qui avaient été construits à la fin. Donc ça aussi, ça participe à l'histoire du quartier. Les abattoirs de la Villette, c'était construit à la fin du 19e siècle. Et ils ont été reconstruits à la fin des années 60, juste avant d'être fermés. C'est assez drôle, mais bon, voilà. Et donc, quand ils ont été fermés, donc en 74, on a décidé donc de fermer cette activité et de faire un parc Cité des Sciences, etc. Donc en 86, ils ont ouvert le parc de la Villette, la Cité des Sciences et de l'Industrie. Et en même temps, on a commencé à revaloriser ce bassin et le canal de Lourdes, qui était encore à ce moment-là très industrieux, hein. Mais par exemple en pavant les berges, en plantant des arbres, en faisant, je sais pas si on a fait déjà des pistes cyclables, mais peut-être. Mais c'était une première étape. C'était il y a assez longtemps finalement quand on. Ce truc là, le MKD Quai de Seine, il arrive en 96, donc quand même 10 ans après la première revalorisation. Et il est un peu le premier. À ce moment-là, il n'y avait pas que des petits cafés sympas, il n'y avait pas celui d'en face, etc. Au passage, dans les années 80, il y avait déjà de la spéculation immobilière, genre ces immeubles-là, c'est-à-dire qu'on a détruit aussi des immeubles et on a construit des bureaux et des logements de meilleure qualité, plus chers forcément, aussi sur les côtés du canal. Puisque c'est exactement comme le canal Saint-Martin, pareil, ça c'était dans les années 70 qu'on a construit des résidences un peu haut de gamme le long du canal Saint-Martin, c'était... C'est-à-dire que le canal d'à côté c'était hyper industriel, et etc. Mais quand on le revalorise, ça devient super agréable d'habiter face à une voie d'eau. Hein. Donc il y avait beaucoup d'appétit immobilier là-dessus. Alors maintenant, le MK2 Quai de Seine. Alors vous savez que donc 96 c'est le MK2 Quai de Seine et le MK2 Quai de Loire, que je dis pas de bêtises, c'était 2005. Voilà, 2005. Marin Karmic. C'est super intéressant parce que son itinéraire à ce gars. C'est exactement représentatif de la gentrification, de comment ça se fait, comment on transforme des éléments ouvriers et potentiellement révolutionnaires avec des éléments complètement réactionnaires. Marin Karmic était maoïste à l'origine, hein, et il avait travaillé avec Godard, avec Agnès Varda, etc. dans les années 60. Il avait participé à l'avant-garde cinématographique de l'époque et créé sa maison de production MK2 pour distribuer ses films que personne ne voulait montrer parce qu'il était assez subversif. Bon, et dans les années 70, il a monté sa propre chaîne de cinéma qui s'appelait Les 14 Juillet, pour ceux qui se souviennent. Moi, je m'en souviens, j'y étais allée dans Les 14 Juillet. Et le premier, c'était Le 14 Juillet Bastille. Il avait créé aussi Le 14 Juillet Parnasse, où il y avait des illustrations, des citations de Mao sur tous les murs, etc. Et c'était des cinémas d'art et d'essai, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de publicité, évidemment. Il passait des courts-métrages avant le film, et puis c'était vraiment une programmation d'art et d'essai. Donc ça s'est étendu dans les années 80-90 et en 98 il a fait un petit virage. Il y a une société de marketing qui l'a aidé à changer, donc il est devenu MK2. Il a fait tout un travail sur son image, etc. Enfin, typique de toutes les grandes chaînes de cinéma ou toutes les industries capitalistes. Il a quand même gardé le rouge et le noir dans le logo MK2 parce que quand même c'est classe et voilà. Et alors, il a fondé son succès, qui est aussi un succès financier, hein, sur justement l'ouverture de cinéma dans des espaces où il n'y en avait pas, dans des anciens espaces populaires. Le MK2 Quai de Seine, le MK2 Quai de Loire et le MK2 Bibliothèque, qui est appuyé sur l'opération de rénovation de ce quartier. Et le MK2 Bibliothèque, je ne sais pas si vous y êtes déjà allé, mais c'est comme un UGC, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a tout, le pop-corn, le machin, bon, ouais. Et aujourd'hui, si vous regardez la programmation des cinémas MK2, il reste quelques films d'art et d'essai, mais il y a de plus en plus des films qui passent dans toutes les chaînes. D'ailleurs, il y a la carte MK2 qui est couplée avec je ne sais plus quel autre truc, l'UGC. Et MK2 s'est associé à UGC pour attaquer des cinémas indépendants comme le Méliès à Montreuil, parce qu'il leur faisait concurrence, parce que c'était moins cher, etc. Donc ça veut dire que maintenant, MK2, UGC et Gaumont, même combat, hein, et qu'ils sont d'accord. Et que donc ça n'a plus rien à voir avec ce qu'il y avait au départ. Et c'est super intéressant parce que donc au départ c'est comme si c'était un cinéma d'art et d'essai dans. Enfin c'est aussi pour ça qu'il faut se méfier. C'est-à-dire que c'est un cinéma d'art et d'essai, on aurait tendance à dire c'est bien, nanana, mais en même temps c'est aussi un agent de gentrification. Et ici ça a très bien fonctionné comme ça, la preuve, on en ouvre un autre 10 ans plus tard, on met un petit bateau au milieu, et alors là ça a été un succès fou, c'est merveilleux. Voilà, donc vous savez peut-être que Marin Karmis, pour couronner cette belle carrière de trahison, a été nommé par Sarkozy au Conseil pour la création artistique créé en 2009, et que comme par hasard, tout d'un coup, il n'avait plus de critiques à faire à la réforme de l'audiovisuel public. Donc voilà, et alors MK2, c'est une société énorme en fait, parce que c'est des cinémas, une société de production, des DVD, etc. Donc ça devient, c'est une grosse entreprise capitaliste maintenant comme les autres. Hein, et il y a vraiment, ne vous dites pas je vais au MK2, comme ça j'encourage, non, rien du tout, c'est exactement comme si vous alliez à l'UGC. Et MK2, c'est 17% des parts de marché à Paris, donc c'est quand même un énorme truc. Là, on est devant les anciens magasins généraux. Alors ça, c'est un bâtiment neuf qui n'est pas du tout d'origine, hein, mais l'autre, en revanche, est d'origine et l'autre était exactement pareil. Hein, c'était les deux étaient pareils. C'est des entrepôts de stockage de grains et de farine qui a été construit aussi fin du 19e siècle pour les denrées donc sensibles, la farine, le grain. Et donc ça participe complètement de l'histoire industrielle et donc c'était industrie et stockage quoi. Donc voilà, donc des grands entrepôts de stockage qui ont été désaffectés, alors je ne sais pas exactement quand, mais en tout cas dans les années 70-80 ils ont été réinvestis par des artistes, des collectifs d'artistes et aussi par des agences de communication, des agences d'architecture, etc. qui ont sous-loué ces bâtiments qui étaient bâtiments industriels, friches industrielles assez classiques quoi. Alors bizarrement, en 90, celui qui était occupé par des collectifs d'artistes a brûlé. Et ça tombe bien parce que ça intéressait beaucoup les promoteurs immobiliers du coin, hein, parce que quand même il y avait beaucoup de fric à se faire avec cet énorme ensemble. Et ça a été, c'est uniquement depuis l'arrivée de Delanoë à la mairie qu'on en a fait quelque chose. Tout ce que je vais, enfin à part là les années 80 certes, mais à partir de maintenant, pratiquement toutes les opérations de réhabilitation, rénovation, gentrification planifiée par les pouvoirs publics, ça date de Delanoë, hein, je tiens à le dire. Donc voilà, et là en l'occurrence il y a eu deux opérations distinctes. Une opération de réhabilitation pour le magasin du quai de la Loire qui a été ouvert, je ne dis pas de bêtises, il a été ouvert en 2006, donc accueil d'étudiants internationaux. Il y a des ateliers d'artistes, un restaurant, un espace d'exposition. Ça, c'est du côté quai de la Loire. Et du côté quai de Seine, il a été complètement reconstruit par des opérateurs privés. Alors, ça c'est intéressant, on utilise la démarche écologique, c'est en HQE, donc haute qualité environnementale, récupération des eaux de pluie, je sais pas quoi. Bon, voilà, moi personnellement, malgré une conscience écologique, ça marche pas qu'on fasse un truc en HQE si c'est pour abriter des grandes chaînes capitalistes à l'intérieur, ça ne me séduit pas. Mais donc on a reconstruit ça pour faire trois grandes chaînes quand même, un hôtel Holiday Inn, 2-3 étoiles, un restaurant La Criée, une auberge de jeunesse, je ne sais plus d'ailleurs quelle est la chaîne en question. Donc c'est que vraiment des grandes chaînes capitalistes et vous voyez c'est complètement tourné vers le tourisme. Ce qui est assez improbable dans ce quartier, qui n'était pas du tout un quartier touristique, qui est complètement en dehors des itinéraires touristiques classiques à Paris. Paris, c'est la ville la plus visitée au monde. Donc, en termes de tourisme, on ne peut pas dire qu'on manquait terriblement d'attrait, de capacité hôtelière, etc. Donc, si on a mis ça là, ce n'est pas parce qu'on veut favoriser le tourisme à Paris, c'est parce qu'on veut favoriser le tourisme ici. Et ça n'a rien à voir avec le quartier. Vous imaginez un quartier populaire et au milieu, vous mettez une chaîne 3 étoiles. Enfin, quel rapport ? Bon. Donc c'est quelque chose de complètement coupé du quartier et qui est lié aux intérêts privés et à une volonté de redorer, de changer l'image du 19e. Ici on est dans le 19e arrondissement, c'est donc le maire c'est Roger Madec. Il a une vraie volonté de transformer l'image de l'arrondissement, son image, son ambiance et donc sa composition sociale in fine et de refaire venir des investissements immobiliers dans cet arrondissement. Là il a très bien réussi de ce point de vue-là. Et alors, que j'oublie rien. Ah oui, alors ça j'adore, sur le site de la mairie du 19e, c'est écrit que l'objectif de cette opération, donc ça, hein, c'est d'amener vie et activité sur ce site et de créer une synergie avec l'ensemble du quartier. Alors pour la synergie, on oublie, et puis alors vie et animation, c'est toujours pareil. Dans les opérations de gentrification, on dit toujours qu'on avait un quartier dévitalisé, mort, etc. Et on va ramener la vie, donc c'est hyper condescendant, c'est-à-dire que les gens qui habitent ici, hein, c'est des pauvres, donc c'est mort, hein, d'accord ? C'est super intéressant, c'est toujours le même vocabulaire qui est utilisé. Or, non, un quartier populaire, en général, c'est un quartier très vivant, il se passe plein de choses, il y a plein de petits commerces, etc. Et dire qu'on va ramener la vie par des chaînes 3 étoiles et machin, c'est, enfin, bon, c'est super scandaleux. Mais ça passe à force de l'entendre, c'est vraiment la nouvelle langue, quoi. À force de l'entendre, on dit toujours, bah ouais, c'est vrai, maintenant c'est sympa, il y a des arbres, tout ça, des bateaux, bon. Oui, certes. Mais voyez, enfin, ce truc de ramener vie, animation, faut toujours se méfier. Parce qu'il faut se dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avant, il n'y avait pas de vie, pas d'animation. Ce quartier, il était mort. C'est pas vrai. Il était mort dans le sens où il n'y avait pas de petit café branché. Certes. Il n'y avait pas beaucoup d'ambiance le samedi soir. Mais voilà, c'est ça que... C'est pas la même chose, quoi. Donc, reconversion touristique. Ici, juste derrière moi, vous avez... Alors, on ne dit pas port de plaisance, on dit halte nautique. Mais bon, c'est la même chose. Et donc la reconversion touristique du bassin, alors déjà en 2007, à l'été 2007, on a étendu l'opération Paris-Plage que vous connaissez tous. Vous savez, Paris-Plage, c'est pour les Parisiens qui ne partent pas en vacances. Voilà. Voilà, donc ici, en été, vous avez du sable, des plages, un petit peu de l'eau partout, c'est merveilleux. Bon, et donc ça, c'est depuis l'été 2007. Et alors, à l'été 2008, on a ouvert cette halte nautique qui est en fait faite pour désengorger le port de l'Arsenal, qui est le port de plaisance de Paris, qui est très engorgé, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent venir. C'est à Bastille, voilà, c'est ça, c'est à Bastille. Et donc là, il y a 24 bateaux qui peuvent s'arrimer là. Donc vous voyez, c'est pas précisément, a priori, quand vous voyez le coût d'un bateau, le coût de rester ici, etc. C'est vraiment, c'est des classes sociales qui sont pas du tout les mêmes que celles qui habitent dans le quartier. Alors, Saint-Tropez, c'est pas sûr, mais en tout cas, vous voyez, ça fait quand même bien. Il y a l'hôtel 3 étoiles, les bateaux, enfin, c'est... Et en tout cas, vous voyez, donc là, ça change complètement l'image. Vous imaginez, là, vous aviez des entrepôts, un truc industriel, des ouvriers qui passent, et puis là, ah, bah non, il y a les bateaux. Mais là, donc, si vous voulez, c'est intéressant, parce que l'argumentaire de Roger Madec, c'est de faire de la mixité sociale. On a des riches là, des pauvres là. C'est ça, la mixité sociale. Alors, on peut appeler ça de la coprésence. Ouais, il y a bien des gens plus riches qui sont près de gens plus pauvres. Mais ça n'a rien à voir avec la mixité sociale, quoi. Donc il ne faut pas se laisser leurrer par ça. Et là, on a typiquement une très belle opération de marketing urbain, parce qu'au départ, bon, ces 24 bateaux là, qui sont là, ils n'ont pas un impact absolument en termes économiques ou en termes matériels, ça n'a pas un impact énorme, c'est beaucoup plus en termes d'image. C'est-à-dire que voilà, quand on y passe, on voit, ça pose une autre image du quartier. Et c'est toujours comme ça que les quartiers commencent à changer. Là, mais ce qui est intéressant là, c'est, là, je vous redis la même chose, hein, c'est que c'est complètement public. Ça a été décidé en Conseil de Paris, cette asthmatique, etc. Ça aussi, c'est privé, mais ça a été décidé par le Conseil de Paris de laisser ça à des promoteurs privés. On aurait pu faire du logement là. Parce que je rappelle que ce dont on manque à Paris, c'est pas d'hôtel, c'est pas non plus de lieux culturels, c'est de logement. Il y a 100 000 demandeurs de logements sociaux à Paris. Voilà, et là on aurait pu faire une magnifique opération de logement. Voilà, c'est pas ce qu'on a fait, c'est un choix. Voilà.
Ça peut se rajouter aussi à ce que vous disiez tout à l'heure avec la Villette, la reconstruction de la Villette, du parc de la Villette.
Oui, sauf que la Villette c'est des années 80, donc là c'est... Mais on continue, quoi.
C'est un complément, quoi, en quelque part.
Oui, on continue, et puis il y a des navettes qui font... Il y a des navettes fluviales aussi entre le parc de la Villette et ici, et donc là, en voilà une. Et d'ailleurs, les canoramas et tout ça, ils ont maintenant leur siège à côté du MK2 Quai de Loire. Donc, voilà, il y a une sorte de... Cette mise en tourisme, elle monte de plus en plus, de plus en plus. Mais il ne faut pas se leurrer dans l'accès à des loisirs, etc. La culture, c'est pareil. Il y a des questions de prix, évidemment. Mais il n'y a pas qu'une question de prix, il y a aussi une question de distance sociale. Et c'est-à-dire que là, on met en scène l'espace de façon à ce qu'a priori, des gens des classes populaires et encore plus immigrés ne se sentent pas vraiment à leur place. Et c'est fait pour. Et même si ce n'est pas cher. Donc il ne faut pas toujours... Enfin, bien sûr, c'est très important, le prix. Mais il n'y a pas que le prix, il y a des gens aussi qui ne sont pas au courant que ça existe. Donc même si c'est pas cher, bah on s'en fout, quoi. Donc voilà. Et ce que je voulais dire, c'est que là, ce qui est intéressant avec la cité universitaire, donc, qui est dans le magasin du quai de la Loire, c'est qu'on utilise toujours, et ça aussi, pour que je pense qu'il y a des jeunes parmi vous qui sont étudiants, il faut qu'on soit vigilant vis-à-vis de ça. On utilise beaucoup les artistes, les étudiants, comme des agents de gentrification. Parfois, ils sont volontaires, mais parfois, ils le font à leur corps défendant. Hein, on y reviendra, je reparlerai de résidence universitaire, de résidence étudiante dans le quartier. Mais c'est, on les met un peu au front. Hein, voilà. Pour l'instant, c'est pas encore prêt pour que vraiment les cadres et tout ça viennent s'installer. Hein. On vous met là, et puis vous allez nous changer l'ambiance, parce que vous êtes bien sympathique, bien blanc, etc. Ça va un petit peu, parce qu'il y a trop de noir dans ce quartier, donc voilà, on va mettre plus de blanc. Et puis après, nous, on vient. Et c'est toujours comme ça aussi. Donc il faut, là-dessus aussi, il faut être vachement vigilant. Parce qu'en même temps, on manque de résidences universitaires à Paris, ça c'est vrai, hein, de logements étudiants. Mais c'est assez intéressant de voir où ils sont mis. Pas dans le 6e arrondissement, pas près des facs, bizarrement d'ailleurs. Tenez-vous chaud. Alors, je voulais juste vous dire un truc que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure. Donc, oubliez ce que vous voyez là, pensez au bassin de la Villette. Tout à l'heure, on est passé le long d'écoles de commerce, sub de pub, je sais pas quoi. Il y en a plein le long du canal Saint-Martin aussi. C'est assez intéressant que ce soit précisément les communicants qui sont le plus au fait de « Ah, c'est là que ça va bouger, c'est là que ça va devenir tendance, c'est là que ça va devenir chic, etc. » dans pas beaucoup de temps. C'est assez impressionnant autour du canal Saint-Martin, toutes les écoles de commerce, évidemment complètement privées, etc., qui sont là. Et là, il y en a aussi sur le bassin de la Villette. Donc voilà, c'était un truc que je voulais vous faire remarquer parce que ça fait un peu bizarre. Hein, c'est un peu l'avant-garde. Enfin, ils sont là un peu tôt enfin, par rapport à l'ambiance qui est encore quand même pas super. Voilà. Bon, donc voilà, donc ça c'est ce que je voulais vous dire. Ici, on est dans les Orgues de Flandre. C'est un ensemble de logements. C'est intéressant d'être ici parce que le 19e arrondissement dans lequel on est, c'est l'un... Avec le 13e arrondissement, c'est l'un des deux arrondissements de Paris où il y a le plus de logements sociaux, 35% exactement. Vous savez que la loi Solidarité et Renouvellement Urbain de 2000 fixe un objectif de 20%. Bon, cet objectif, il est inscrit dans la loi, mais tout ce qui était sanctions, enfin toutes les méthodes pour l'appliquer ont été vidées par la droite. Donc en fait, c'est un objectif qui est un vœu pieux. Si on a envie de le faire, on peut le faire. C'est ce que fait Delannoy, c'est-à-dire il dit ben, « moi je vais faire les 20% de logements sociaux ». Ce qu'il va certainement réussir à faire, hein, mais on va en reparler après sur qu'est-ce qu'on entend par logements sociaux, etc. Alors ici, il ne faut pas se planter, ce n'est pas du tout que des logements sociaux. Les tours sont en copropriété. Hein, donc c'est 3 tours de logements en copropriété et autour des logements sociaux, avec aussi pas mal de logements intermédiaires, qui étaient ce qu'on construisait le plus dans les années 80-90, c'est-à-dire des logements financés par la puissance publique, mais pour plutôt des classes moyennes. Et qui maintenant, depuis la loi SRU de 2000, sont sortis du comptage des logements sociaux. À la place, on a créé un nouveau truc qui permet de refaire des trucs un peu pour les classes moyennes et de les compter dans les logements sociaux. Bon, j'y reviendrai plus tard sur vraiment les logements sociaux. Alors, donc c'est intéressant parce que là, on a l'image, on est dans ce qu'on appelle une cité, enfin, en langage courant, parce que ça ne veut rien dire, et c'est quand même un quartier un peu chaud parfois. Il y a pas mal d'interventions policières, il y a pas mal d'immigrés, etc. Donc c'est l'image qu'on peut avoir de la cité, tout ça. C'est exactement l'image, à mon avis, que Roger Madec veut casser, c'est-à-dire que ce soit plus ça le 19e. Bon, c'est quand même un ensemble intéressant, c'est pour ça que je voulais vous le montrer. Donc ces tours, elles datent des années 70, elles s'appellent Prélude, Fugue et Cantate, et la dernière n'a pas de nom, alors ça c'est vraiment quand même un peu naze, ils ont pas de nom. On va l'appeler Symphonie ou je sais pas, bon bref. Ouais, alors c'est les Orgues de Flandre, voilà, donc on est dans cette image de la musique. C'est donc en copropriété, ça a été construit, donc elles ont été inaugurées entre 74 et 80, donc c'est vraiment tout au long des années 70. La plus haute tour à 38 étages et 100 mètres de haut, sans compter l'antenne, sinon ça fait 123. J'imagine, ouais. Et donc la plus haute, je crois que c'est la Fugue, bon, peu importe. Donc c'est vraiment une petite ville dans la ville, c'est très dense. Bon, en même temps, c'est intéressant, c'est un vrai choix de la densité pour créer des logements sociaux. C'est les choix qu'on faisait dans les années 70 quand on créait des grands ensembles. Là, ça ressemble à un grand ensemble, mais quand on pense grand ensemble, on pense logements sociaux. Or là, les tours sont du logement privé et on peut imaginer que ça s'est enchéri progressivement. Peut-être qu'au départ, c'était peut-être pas très cher. À mon avis, ça doit être cher maintenant d'avoir un logement dans la tour. Hein. Bon, là, on est dimanche matin, donc ils dorment, mais quand même, il y a des petites bandes de jeunes, il y a des rixes entre les bandes de jeunes, il y a des flics qui arrivent régulièrement pour taper quelques... Voilà, c'est l'image classique qu'on a, qui est une image de la banlieue. Et même nous, voilà, cette architecture, elle nous fait penser à la banlieue. Pourtant, on n'est pas en banlieue ni rien, hein, mais il y a des arbres. Mais il y en a aussi en banlieue, il ne faut pas croire. À Paris, en tout cas, les ouvriers sont principalement d'origine... Enfin, soit étranger, soit d'origine étrangère. Donc c'est un amalgame qui est tout à fait valable pour Paris de dire que les classes populaires sont des étrangers. C'est-à-dire que, voilà, c'est et des étrangers ou des immigrés, des gens qui ont la nationalité française, mais qui sont d'origine étrangère. Donc c'est assez intéressant parce que la politique de l'État comme de la mairie, si vous voulez, une politique contre les classes populaires ou une politique contre les étrangers, c'est la même chose à Paris. Et d'ailleurs, ça se marie très bien. C'est-à-dire que le fait de fermer les frontières, de faire des rafles de sans-papiers, etc., c'est la même chose que de vouloir virer les pauvres des quartiers populaires. C'est la même chose. Je ne sais pas si vous avez regardé quand on se promenait rue Riquet. Bon, on est très nombreux, donc on occupe un peu toute la voie. Bon, on ne croise pas les mêmes personnes. On n'est pas dans la même ambiance que sur le bassin de la Villette. Pour l'instant, c'est encore, on est sur le front de gentrification. C'est-à-dire qu'on est là où c'est en train de se faire. On revient dans 10 ans. ce sera différent. Si vous allez dans les rues adjacentes au canal Saint-Martin, avant, par exemple, à la fin des années 90, début des années 2000, vous aviez la même chose, le canal Saint-Martin un peu, voilà, branché, nanana. Puis dans les rues adjacentes, plutôt des immeubles un peu tristounes, et puis des gens qui ont l'air populaires, quoi. Oui, l'architecte, c'est Martin Van Treck, qui s'appelle. Tout, ouais. La gentrification, donc. Mais juste la définition, c'est embourgeoisement des quartiers populaires avec transformation de l'habitat. Et c'est pour ça que c'est pas tout à fait synonyme d'embourgeoisement. Ça concerne que les quartiers populaires. Et ça passe forcément par la transformation de l'habitat, du bâti, voire de l'espace public, des commerces, comme on peut le voir là. Ce qui est intéressant là, c'est que, en fait, le 19e, il y a beaucoup de logements sociaux. Pour l'instant, en France, on ne privatise pas encore des masses de logements sociaux, parce qu'en Angleterre, c'est comme ça qu'on a fait. On les a vendus. C'est beaucoup plus simple. Ça s'appelle la résidentialisation. Attends, non, je laisse pas finir. Ça existe, mais c'est très, très marginal encore par rapport à l'Angleterre. En Angleterre, on a fait la résidentialisation, c'est-à-dire qu'on a... On a mis des dispositifs de surveillance pour faire comme si c'était des petites copropriétés au lieu d'être des immeubles de logements sociaux, puis on les a vendus à leurs occupants. Mais évidemment, après, les occupants, ils peuvent revendre au prix du marché aux personnes suivantes. Donc, très rapidement, ça s'est embourgeoisé. Donc, c'est comme si ici, on vendait tout et que là, et qu'on relook un peu, qu'on fait un truc un peu plus sympa. Ça pourrait devenir super chic, ça pourrait devenir du logement haut de gamme là-dedans. On peut très bien en faire. Donc, là, on n'en est pas tout à fait là. En tout cas en France et en tout cas à Paris. Ce qui est intéressant, c'est donc que dans le 19e, on a tout un parc de logements sociaux qui est a priori pas vraiment gentrifiable pour l'instant. Et on a l'habitat privé qui est de très mauvaise qualité. Et donc qu'est-ce qu'on fait comme opération publique? Des trucs comme le bassin de la Villette, tout ce qu'on a vu là. C'est-à-dire quelque chose qui est censé avoir un effet d'entraînement pour la gentrification dans le parc privé qui va se faire en dehors des pouvoirs publics. C'est pas les pouvoirs publics qui vont dire voilà... ils n'ont pas de prise là-dessus. Mais bon, ça se fait un peu tout seul, et là, on accélère, on encourage le fait que ça se fasse. Mais même sans la vente à la découpe, tout simplement la vente d'individu à individu, vous savez comment ça marche, on réhabilite son logement, on le revend vachement plus cher, etc. C'est comme ça que ça marche, la gentrification. Et sans qu'il y ait forcément de mauvaises intentions. Ce n'est pas forcément des gens qui vont spéculer, hein, c'est des gens qui vont s'acheter un logement, mais de fait, il suffit qu'on le refasse une fois pour qu'il devienne inaccessible aux classes populaires ou même aux petites classes moyennes. Aux anciens occupants, voilà. Mais d'ailleurs, là, il y a une architecture un peu innovante, un peu intéressante, alors que ce n'est pas le cas des autres cités du 19e. Et de toute façon, mais voilà, il faut pas avoir un raisonnement individuel, il faut penser aux mécanismes. Il pourrait y avoir des mécanismes d'encadrement des prix immobiliers, d'encadrement des loyers, qui ferait que même si on rénove, bah, ça reste à un prix correct. Et donc là, ce n'est pas nous tout seuls qui pouvons le décider, c'est en termes de système. Mais je pense que vous aussi vous aurez des choses à dire, donc on pourra en discuter, faire un truc participatif comme les autres fois. C'est bon, on y est? Donc on est là dans un ancien bâtiment des pompes funèbres que vous savez certainement tous, qui avait été construit sous la houlette de Baltard en 1874, et ça, c'est de l'architecture industrielle comme des halls de gare, etc., les cathédrales du temps moderne, n'est-ce pas? Donc même chose, juste pour info, il n'y avait pas beaucoup de morts ici, hein. C'était pas un lieu, je sais plus quoi, ce que j'avais lu, que c'était les pompes funèbres, mais c'était pas un lieu où, enfin je sais plus ce qu'on faisait, bon voilà, bravo, super, donc c'est pas la morgue, voilà, c'est les pompes funèbres, vous voyez la différence, bon, alors, bon, toujours est-il que le bâtiment a été désaffecté, pareil, je sais pas exactement quand, mais depuis un certain moment. Et le projet de reconversion, il est apparu qu'à la fin de la première mandature de Delanoë. D'accord ? Le projet initial, c'était de faire un équipement de quartier, un établissement culturel avec les artistes du 18e, 19e, 20e ouverts sur le quartier. Et puis, ça, c'est pas ce qui s'est fait. Finalement, on a donné la direction à deux directeurs qui s'appelaient Cantarella et Fishback. Bon bref, hein, voilà. C'est ceux qui ont démissionné il n'y a pas longtemps parce que l'établissement est en faillite. Voilà. Et donc, les deux sont au théâtre et en fait, ils ont changé la nature du projet. C'est devenu un projet d'artistes en résidence internationaux, déjà connus, nanana. Et donc, c'est plus du tout la même chose. Quant à l'ouverture sur le quartier, elle est quand même très relative. Il y a un espace qui s'appelle le 5, Donc le 5, c'est des studios qui peuvent être loués pour 2 euros de l'heure par des habitants du quartier, des associations du quartier. Mais enfin bon, voilà quoi, c'est un lieu, si on a un projet, on peut faire quelque chose. Mais après, comme pour faire venir les gens, c'est un peu limite quoi. Donc voilà, donc c'est devenu un établissement culturel d'envergure internationale. Enfin, c'était ce qu'on voulait faire, ça n'a pas trop marché, comme un autre. Or, comme vous le savez, à Paris, on manque pas trop d'établissements culturels de renommée internationale. Hein. Au départ, il y avait quand même l'idée aussi de faire un établissement culturel dans ces espaces, et pareil, qui sont sans culture. Hein. C'est quand même l'idée que s'il n'y a pas d'établissement culturel, ben, il n'y a pas de culture. Alors qu'il y a la culture populaire et qu'il y a tout à fait plein de cultures vivantes et qu'au contraire, en expulsant les gens, et ben, on appauvrit la richesse culturelle de ces quartiers. Et là, il faut vraiment aussi penser que la culture est utilisée comme agent de gentrification. Hein, les artistes sont souvent des pionniers dans les découvreurs de quartiers, parfois tout seuls, hein, parce qu'ils cherchent tout simplement des ateliers pas chers. Mais bon, en même temps, ils changent l'ambiance du quartier. Et après, les promoteurs arrivent derrière et disent « Oh, mais c'est très bien votre truc !» Tiens, on va faire des logements haut de gamme, etc. Et là, l'établissement culturel, de toute façon, qu'il soit de quartier ou de renommée internationale, comme il est plus ou moins devenu, puisque ça ne marche pas, c'est un vrai facteur de gentrification. Le but, c'est de faire venir des populations blanches de classe moyenne, ici, qui passent dans la rue d'Aubervilliers, qui était quand même un haut lieu de deal, etc. Donc un lieu très populaire, plutôt peu fréquenté, plutôt repoussoir, qui viennent et qui changent par le fait au moins des allers-retours entre le métro et le 104, qui changent l'ambiance du quartier. Bon, ça marche pas très bien, de fait. Il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent, c'est principalement assez vide. Alors ici, on a un espace qui fait 39 000 mètres carrés, donc c'est énorme. C'est une aberration écologique au passage, parce que c'est très mal chauffé, c'est chauffé énormément, mais c'est quand même mal chauffé, et donc c'est un gaspillage innommable. Là-dedans, il y a des artistes en résidence, un restaurant, un café, quelques commerces, mais bon, pas des masses, et donc ces petits ateliers du 5. Donc ce qui est intéressant, c'est que donc il a ouvert en 2008, en octobre 2008, ça a coûté la bagatelle de 102 millions d'euros, ce qui correspond au quart du budget alloué au logement social à Paris, pour la même année, en 2008. Or, là encore, je le redis, on manque plus de logements sociaux que d'établissements culturels de premier rang à Paris. Donc, là encore, une volonté de changement d'image. Vous voyez que là, l'action publique, elle n'est pas, à nouveau, elle n'est pas pour créer des logements. C'est-à-dire, on ne fait pas des logements qui vont faire venir les citoyens. On fait un établissement culturel, un jardin, un machin, pour faire venir les gens. Et l'idée, c'est que les gens viennent et se disent « Ah, mais en fait, c'est pas mal ce quartier. » Et puis, ça tombe bien, parce que c'est là où sont les logements les moins chers de Paris. Pour l'instant, on ne peut pas y vivre, on ne connaît pas. Mais maintenant qu'on y est allé plusieurs fois au 104, on pourrait peut-être acheter un logement dans le coin. C'est vraiment un vrai truc, c'est un truc d'appât. C'est que les gens viennent, qu'ils se disent, mais finalement, ouais, ça tombe bien. Voilà. Et c'est en effet les logements les moins chers de Paris. Donc toutes les classes moyennes qui peuvent à la rigueur acheter, c'est là qu'elles peuvent acheter. Et éventuellement, ça les aide à s'acclimater. Parce que sinon, je n'ai pas dans le quartier. Hein. Voilà. Donc, ouvert le 11 octobre 2008, le 104 est aujourd'hui en faillite. Les deux directeurs ont démissionné, ils n'ont pas été renouvelés. Et alors depuis le 1er avril, il y a un collectif d'artistes qui occupe le 104. Alors je ne sais pas où ils sont, j'ai essayé de les trouver en passant, mais on ne les a pas vus. Il y a un collectif d'artistes qui occupe le 104 et justement il y a deux jours, ils ont fait un forum. Après, là, vous savez, il y a eu une manif pour la défense de la culture jeudi, et ils ont fait un forum qui s'appelle « Un autre 104 est-il possible ?». Ils revendiquent carrément la direction de l'établissement pour changer justement l'orientation, faire quelque chose peut-être plus en lien avec la population, plus avec les artistes pas trop connus encore. Bon, et donc ils sont toujours en cours d'occupation, mais bon, je sais pas trop où ils sont. Ils ont fait un travail assez intéressant, ils ont un site internet qui s'appelle le 104 occupé, si vous cherchez 104 occupé, pas dans Google, mais dans un autre moteur de recherche s'il vous plaît. Et ben, par exemple, Scroogle, qui utilise Google sans laisser de traces, voilà. C'est pas un logiciel, c'est un moteur de recherche qui pirate Google en fait. Scroogle, S-C-R-2-O-G-L-E. Vous avez les mêmes résultats que dans Google, c'est tout aussi bien, mais vous laissez pas de traces. Voilà. Et en plus, c'est fait par l'association américaine qui s'appelle Google Watch, et qui est un truc qui dénonce les projets pharaoniques de Google. Bon, voilà, petite parenthèse. Donc si vous cherchez dans Scroogle 104 occupé, vous allez trouver certainement ce site. Et ils ont fait un travail assez intéressant sur toutes les entraves à la circulation, c'est-à-dire tous les dispositifs de surveillance et de fermeture dans cet espace qui est censé être un espace ouvert et un espace de passage. Ça s'appelle l'espace public empêché, c'est assez bien. Donc il y a toute une réflexion là-dessus. Et souvent quand on crée des dispositifs comme ça pour changer l'image du quartier, ça va aussi avec de la surveillance. Alors de la manière la plus subtile possible, qu'on ne le sente pas trop oppressé quand même. Mais voilà, il y a quand même tout ça avec, parce qu'on est quand même dans un quartier de classe dangereuse, faut pas l'oublier. Donc voilà. Et là, vous avez, tous les immeubles privés de la rue d'Aubervilliers, qui sont de l'habitat 19e classique, sont ravalés les uns après les autres, bizarrement. Parce que y a du fric à se faire, je pense que les prix vont vachement augmenter. La ville, quand elle rénove, elle fait du logement social. Alors après, quel logement social, on va voir. Mais là, il y a aussi des immeubles tout simplement privés qui restent privés, qui aussi peut-être n'ont pas été entretenus depuis des années. Et là, se disent, tiens, c'est peut-être le moment de se faire un petit ravalement de façade. Qui vient en conseil de quartier? Précisément les classes moyennes blanches pour qui on fait tout ça. Donc ça tombe bien et ils sont d'accord et ils disent qu'il en faut encore plus. Donc c'est vachement bien. Enfin, donc la démocratie participative n'est pas une démocratie, on est bien d'accord. Et c'est fait au contraire, c'est fait pour faire dire aux gens ce qui était déjà dans les projets de la mairie. Voilà. On veut des espaces verts, des espaces culturels, on s'en fout, des logements c'est trop dense, nanana. Bon, voilà, donc ça tombe bien. Ah, la gentrification, je pense qu'il n'y a que des inconvénients pour les classes populaires, puisque à un moment, les loyers enchérissent, à un moment, ils sont obligés de partir. Si, il y a une minorité qui peut en profiter, parce qu'on crée quand même des logements sociaux, mais ça, j'y reviendrai. Et donc, il y a une minorité des classes populaires à Paris qui peut à la fois se maintenir et améliorer ses conditions de logement, parce que les conditions de logement des classes populaires à Paris sont catastrophiques. Et donc, mais c'est une minorité, parce que pour 5 logements de mauvaise qualité, même 10 logements de mauvaise qualité qu'on détruit, on en crée un bien. Et voilà, il n'y a pas de la place pour tout le monde, donc il y a une famille qui va... oui, et là, oui, en effet, ça change la vie. C'est-à-dire qu'ils ont un logement avec le nombre de pièces qu'il faut, avec le confort, etc. Et qui peuvent se maintenir, parce qu'en restant dans le logement social, ils sont assurés de leur maintien. Mais c'est une minorité. Et on avance, là, on va faire la suite. Comment s'est organisée cette visite? Il y a différentes personnes dans le cadre du FRAP qui avaient proposé de faire un atelier sur la question de la gentrification. Et donc je pense que les choses se sont faites vraiment de manière très naturelle. Quand on a commencé à parler autour de nous, tout le monde nous a dit faut en parler à Jean-Pierre Garnier et à Anne-Claire Val. Enfin, je pense que tous les doigts se sont vraiment tournés vers eux deux. Et donc et du coup on les a tout de suite contactés. Et éventuellement, ce qui serait pas mal, c'est d'en profiter pour faire une balade. Donc après, c'est plus sur la zone géographique, on savait pas trop, pour que ce soit un peu pratique par rapport au lieu où on allait être et tout ça. Mais on s'est tous dit qu'avant le débat, forcément, ce serait quand même pas mal d'avoir une petite balade sociologique. Et Anne et Jean-Pierre ont été super partants sur le truc, donc on n'a même pas dû devoir les supplier, leur acheter des cafés ou des pains au chocolat. Et on est très contents d'ailleurs de... l'effort et l'énergie qu'ils ont, enfin l'énergie surtout pour que ça se passe bien quoi. Et puis voilà, et puis sinon de toute façon là, l'idée c'est que le débat continue. Donc on continue sur les questions de gentrification, des quartiers populaires, embourgeoisement des quartiers populaires, avec toute cette problématique que eux ils ont mis en avant qui n'est pas inintéressante, c'est processus social ou projet politique. Parce qu'on peut pas. Je pense que ce serait réduire la chose que de dire que c'est qu'un projet politique. Parce qu'il y a forcément un jeu d'acteurs, de gens qui arrivent dans un quartier, effectivement, qui achètent, qui transforment la vie d'un quartier, comment tout ça interagit. Donc ça, c'est la problématique qui nous animait. Parce qu'on parle beaucoup d'embourgeoisement des quartiers populaires, mais finalement, est-ce que c'est à quel point c'est vraiment décidé d'en haut, à quel point les choses... comment les choses se mettent en place, quoi, où se passent les décisions Donc voilà, et puis du coup on s'était dit qu'on ne pouvait pas échapper à la question du Grand Paris. On avait été à l'expo ensemble, entre les gens de l'atelier, à l'expo du Grand Paris, à Cité de l'architecture, mais on n'a rien compris. Donc on s'est dit que ce serait bien qu'il y ait quelqu'un qui nous explique en gros quels sont les enjeux derrière tout ça, parce que derrière des jolies cartes et des belles vidéos, on a quand même l'impression que ça va être une grosse transformation de la région parisienne. Et, ça, par contre, je ne peux pas en dire plus, même sur la problématique, parce que juste, je ne comprends pas. Le Festival des résistances et des alternatives de Paris, donc c'est là où on est à la 10e édition, je crois. Oui, ça a été créé d'abord en région, du côté de Rennes, je crois.
Et donc les premiers frappes à Paris, c'était il y a une dizaine d'années. Et en gros, c'est tous les gens motivés qui veulent venir. Tout le monde est cordialement invité. S'ils ont une idée d'atelier ou alors ils peuvent se greffer à d'autres ateliers, mais c'est vraiment sur la base d'autogestion, absence de subvention. On est nos propres médias. Et après, c'est vraiment chacun fait ce qu'il a envie. C'est une fois par an, en général, la première ou deuxième semaine de mai. Et voilà, en général, c'est une petite équipe. Et donc, on essaye les supports du frappe sont variés. On essaye de faire des projections, des fêtes, moments de rencontre, débats, actions. C'est vraiment un festival un peu de militants dans l'action et dans la réflexion, projection de docu.
Des alternatives au capitalisme, quand même.
C'est tellement hétéroclite aussi, enfin,
mais
quand tu vois,
même,
mais oui, la base festival des résistances et des alternatives, c'est en dehors du jeu électoral, en dehors du capitalisme, faire les choses autrement, promouvoir le principe de gratuité, parce que tout ce qu'on propose, c'est dans un cadre de prix libre, qu'on défend de manière, c'est un principe auquel on ne déroge absolument pas,
Le projet Paris Nord-Est, c'est 200 hectares. C'est le plus grand secteur d'aménagement aujourd'hui à Paris. Et ça a été programmé dès 2002, mais ça commence vraiment depuis la seconde mandature. Et il y a plusieurs éléments qui se croisent. Au départ, il y a la politique de la ville, c'est-à-dire que c'était dans des quartiers où il y avait des logements sociaux, puisque c'était l'ancienne zone de l'enceinte de Thiers, où on a construit énormément de logements sociaux quand on a détruit les enceintes. Donc des quartiers sensibles, puisque pauvres, etc. etc. Ils sont classés en quartiers sensibles, dans ce qu'on appelle la politique de la ville, et qui n'a rien à voir avec une politique de la ville, qui est une plus ou moins politique de gestion de la pauvreté en ville. Au départ, c'est donc un GPRU, c'est-à-dire un grand projet de renouvellement urbain. Et c'est en fait ce qu'on fait en banlieue aussi, c'est-à-dire c'est un peu la rénovation urbaine. Vous savez, on détruit une tour par-ci, une tour par-là, on essaie de faire trois espaces verts et on pense que tout ira mieux. Et si possible, on éparpille les pauvres. Parce qu'on ne sait pas éliminer la pauvreté, c'est pas vraiment l'objectif ni de la droite ni de la gauche aujourd'hui. Donc ce qu'on peut faire, c'est les disperser. Parce que là, si on les disperse, on sait à peu près les gérer. Il ne faut pas qu'ils soient trop concentrés dans un même endroit. Donc la politique de renouvellement urbain, c'est une politique de dispersion, de saupoudrage des pauvres un peu partout, que chacun en prenne un peu en charge. C'est exactement ça. Bon. Donc là, au départ, c'était ça. Ça veut dire donc créer des nouveaux équipements, améliorer le cadre de vie, etc. Mais c'est aussi, ça s'inscrit aussi dans le projet de la Noé de mieux collaborer avec les communes limitrophes. Vous savez, c'est le grand truc de la Noé. Nous, on est plus fermés, on est copains. Donc il y a aussi les communes de Seine-Saint-Denis, résorber la coupure matérielle du périphérique. Ça tombe bien puisque à Saint-Denis, dans la plaine Saint-Denis, on fait plein de logements haut de gamme pour les cadres et tout. Donc on va bien résorber, c'est-à-dire qu'on va tout gentrifier comme ça sera super bien résorbé. D'ailleurs, il y a un autre projet dans le même genre, c'est à Port des Lilas, où on va couvrir le périphérique et on va faire du logement plutôt bien et tout. Et donc voilà comment on résorbe. On essaie d'étendre la gentrification. Alors justement, ce qu'ils veulent faire maintenant, c'est plus qu'un le GPRU, ce projet Paris Nord-Est, c'est faire un nouveau pôle tertiaire comparable à la Défense. Bon, ce ne sera jamais aussi important qu'à Défense, mais pour info, c'est là où ils veulent faire éventuellement des tours. Vous savez, le débat sur faire une tour ou pas faire une tour, bon, ce serait là. Et donc ce serait un pôle tertiaire avec des bureaux, des universités, puisqu'il est question de déplacer Paris 1 et le HESS. Et au passage, ça c'est super intéressant aussi, parce que Paris 1 et le HESS, c'est des universités qui sont centrales dans Paris. Et ça permet de les évacuer du centre, de libérer des emprises foncières publiques, qu'on va vendre aux plus offrants et donc en faisant pas mal de monnaie fraîche, et qu'on met plus loin, là, vers Aubervilliers. Là encore, on s'en sert comme des agents de gentrification. Parce que tous ces étudiants là de l'HESS de Paris 1, on espère qu'ils vont bien faire leur boulot, mettre de la bonne ambiance là-bas et qu'après du coup des cadres vont vouloir aller s'installer à côté. Et aussi au passage de l'HESS Paris 1 récemment avec le CPE, tout ça, ils ont un peu fait chier, il y avait quand même l'occupation de l'HESS, Tolbiac, ils n'arrêtent pas toujours de bloquer les ascenseurs pour un oui pour un non. Bon, donc l'objectif aussi c'est de les virer aussi du centre de Paris. Donc c'est triple opération, voilà, on fait un super truc. Donc pour info, il n'y aura que 40% des surfaces qui seront consacrées au logement et là-dedans 50% de logements sociaux. Donc la mairie communique en disant on va faire des logements sociaux, mais en fait il n'y en aura pas beaucoup par rapport à l'emprise que ça représente. Et au contraire, on peut penser qu'en faisant un pôle tertiaire de bureaux, d'université, etc., ça va énormément revaloriser cet espace périphérique de Paris et donc contribuer à la gentrification à la fois à l'intérieur de Paris et dans les communes limitrophes. Puisque la gentrification, vous l'avez peut-être observé, ça a déjà commencé à Montreuil, ça a déjà commencé à Pantin, c'est en train de balbutier à Aubervilliers. Là, on va vous aider les gars, allez-y, gentrifiez. C'est aussi un projet qui est... Et puis, alors, là, la rhétorique de la mairie, elle est très claire. Hein. C'est Paris, capitale engagée sur la scène internationale, tiendra sa place dans la compétition entre les métropoles. Donc là, on est loin des enjeux sociaux et compagnie. Hein. Le but, c'est d'être plus fort que Londres. Alors, au départ, Paris-Nord-Est, là, c'était le site prévu pour les Jeux Olympiques de 2008 qu'on n'a pas eu, vous savez. Voilà. Alors, pour se venger, on va faire un pôle tertiaire où on sera plus fort que Londres, comme ça, voilà. La reconversion, c'est pas de faire plein de logements sociaux, parce qu'on sait que c'est pas bien de concentrer les pauvres, hein, donc maintenant on a compris. Voilà. Et donc, il doit y avoir une nouvelle gare du RER E, il y a l'extension du tramway qui va aussi arriver sur les Maréchaux à cet endroit-là, donc ça va devenir un nœud de communication. Et il y aura aussi une liaison rapide avec l'aéroport pour que tous ces charmants hommes d'affaires puissent venir rapidement dans leur bureau. Donc ici, on est sur une ancienne friche de la SNCF, hein, qui fait 4 hectares. Et en 97, il y a un collectif d'habitants qui s'est créé, qui a créé une association qui s'appelle l'association des jardins d'Éole. Avant même, c'était pas du tout un jardin, c'était donc une friche. Et qui justement voulait promouvoir la création d'un parc public. Et pour le promouvoir auprès des pouvoirs publics, a fait plein d'animations, des fêtes, des opérations de nettoyage de printemps, etc. En associant les habitants pour se réapproprier ce lieu qui était nommé la Cour du Maroc par les habitants. Alors, ils ont tellement bien œuvré qu'en 2001, c'est devenu une promesse électorale de Delannoy et il l'a tenue. Comme quoi, les socialistes tiennent parfois leurs promesses. Quand il s'agit de faire un espace vert. Bon. Et alors, le nouveau jardin, il a ouvert en mai 2007. C'est un nouvel, donc ça fait 42 500 m2. Et il y a une partie qui est toujours ouverte. Là, la partie où on est, elle est fermée la nuit. Mais là-bas, il y a une partie qui est toujours ouverte. Et il y a même un jardin partagé au milieu qui s'appelle le trèfle d'Éole. Ici, la principale crainte des pouvoirs publics, donc comme vous savez peut-être, je vais en parler. Est-ce que je vais en reparler tout à l'heure ou pas? Ouais, bon, je vais en parler maintenant. En fait, ici, c'était une scène ouverte de drogue, donc deal et consommation sur place pendant les années 90, en fait, autour de Stalingrad, la rotonde de la Villette et puis ici, près de Stalingrad. Donc il y avait pas mal de violence et puis aussi des toxicomanes au milieu de la rue, donc notamment autour du crack qui a été déplacé à Château-Rouge puis à Saint-Denis aujourd'hui. C'est près de Saint-Denis. Et du coup, la principale crainte, c'est que ça devienne un lieu de consommation de drogue, d'où le fait que c'est fermé en partie et que la partie ouverte a quand même des fondations pour qu'on puisse créer un mur du jour au lendemain si nécessaire. On ouvre, mais il faut quand même pas... Hein, pas trop. Et donc l'idée, c'est de... Il y a aussi une buvette associative qui, on passera devant tout à l'heure, qui anime un peu, mais ça marche pas très bien parce que la rue de Bervilliers est très bruyante, comme vous avez pu le constater. Donc la buvette, elle marche pas très bien. Le but, c'était de faire qu'il y ait une appropriation des habitants, etc., pour éviter justement les toxicomanes. Bon, le fait est que la scène de drogue, elle a été virée entre-temps, donc il y a beaucoup moins de risques là, maintenant. Alors là, c'est dommage qu'on ne soit pas avec Jean-Pierre Garnier parce que lui, il est là-bas. En fait, il sait où sont. En fait, il y a plein de caméras de vidéosurveillance planquées dans ce jardin. Et il sait où elles sont. Voilà, donc, et en plus, c'est planqué, donc c'est encore plus pervers. Donc, le logement étudiant, c'est un type de logement social qui s'appelle le PLS. Peu importe les sigles, ils n'ont aucun intérêt. Mais qui sont donc des logements sociaux qui sont accessibles, en général, hein, pas la résidence étudiante, mais ça rentre dans la même catégorie de ceux qu'on crée, qui sont accessibles à des gens qui gagnent plus de 30% du plafond de logement social, sachant que les plafonds de logements sociaux, ils ont été relevés depuis les années 70, enfin, en permanence depuis les années 70. Aujourd'hui, 80% de la population parisienne pourrait avoir accès au logement social. Bon, j'ai plus les chiffres en tête, mais en tout cas, ça reste accessible, du coup, vraiment, franchement, aux classes moyennes, quoi, le PLS. Or, il faut savoir que parmi les demandeurs à Paris, les 100 000 demandeurs, il y a 75% des demandeurs qui sont en dessous des plafonds des logements très sociaux, c'est-à-dire ceux qui sont vraiment pour les plafonds les plus bas, 75%. Or, on fait facilement, et il y a 1% qui sont éligibles au PLS, et on fait facilement 30% de PLS. Alors, pourquoi on fait ça? C'est pas que la responsabilité de la mairie, il se trouve que le PLS ne coûte rien à l'État. C'est uniquement un agrément. Et ensuite, ça ouvre droit du coup à des prêts à taux préférentiel auprès du crédit foncier et compagnie. Mais l'État, ça lui coûte rien. C'est uniquement la mairie qui finance. Donc la mairie est obligée aussi de prendre ce qu'on lui donne en termes d'État et donc fait pas mal de PLS. Maintenant, c'est aussi un choix de la mairie. En fait, la mairie a une vision de Paris comme d'un espace qui ne bouge pas, en termes sociaux. Et ils disent, là, c'est des quartiers riches, on va faire des logements très sociaux. Donc ils font des logements très sociaux avenue Mozart dans le 16e. Ça ne fait pas beaucoup parce que bon, il n'y a pas beaucoup de place mise en fond. Et puis, dans les quartiers populaires, on va faire des PLS pour faire venir les classes moyennes, pour faire de la mixité sociale. Sauf que c'est faire comme s'il n'y avait pas de gentrification par ailleurs dans le parc privé. C'est faire comme si ce qui bouge dans Paris, c'est uniquement grâce à la puissance publique, quoi. Le reste, ça ne bouge pas. Or, ça bouge énormément en dehors de la puissance publique. Et donc, le choix, c'est de faire de façon privilégiée dans ces quartiers, à Château-Rouge, à Belleville, des PLS. Et notamment, par le biais des résidences étudiantes qui sont classées comme PLS. Même si là, on est d'accord, c'est que des étudiants qui peuvent vivre là-dedans. Mais c'est pas les mêmes conditions d'attribution. Tout le monde est pour la mixité sociale et tout le monde l'utilise dans tous les sens. Et en l'occurrence, on l'utilise aussi pour embourgeoiser. Puisque ici, c'est très populaire. Vous êtes d'accord, vous êtes pour la mixité sociale. Il n'y a pas assez de classe moyenne, il n'y a pas assez de blancs. Donc, on va les faire venir. Donc, voilà. Ça, c'est un petit topo sur le logement social pour que vous ayez en tête que faut pas juste se dire c'est bien le logement social, enfin, c'est bien, mais voir les nuances et puis se dire ouais, mais est-ce que c'est la seule action possible? Et voilà.
One dove, you're the one I've been waiting for. Through the dark fall, the nightmares, the lonely nights, I was born curling fox in a hole, hiding from danger, scared to be alone. One dove to bring me some peace. In starlight you came from the other side to offer me mercy, mercy, mercy. One dove, I'm the one you've been waiting for. From your skin I am born again. I wasn't born yesterday. You were old and hurt. I was longing to be free. I see things you were too tired, you were too scared to see. One dove to bring me some peace. In starlight you came from the other side to offer me mercy, 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 mercy. came from the other side to offer me mercy, mercy, mercy. Wonder to bring me some peace. Starlight, you came from the other side to offer me mercy, 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 mercy. Eyes open, shut your eyes. Eyes open, shut your eyes.